France Culture, les matins d'été, Julie Gacon.
Nous parlions avec le philosophe Guillaume Leblanc des politiques d'accueil des demandeurs de refuge, expression qu'il préfère à celle de réfugiés. Le film dont nous allons parler n'est pas un film politique, engagé, mais il a pour personnage principal un jeune Iranien venu au Danemark chercher épouse et donc papier. Bonjour Milad Alami.
Hello, bonjour.
Merci d'être avec nous. The Charmer est votre premier long métrage. Il sort en salle aujourd'hui et France Culture est partenaire. Il a obtenu le prix du meilleur premier film au Festival de San Sebastian. Anthony Roger est ici avec nous pour assurer la traduction. On va d'abord raconter l'histoire de ce film. Histoire d'Esmaïl, un jeune Iranien, physique à la George Clooney. Il est en jeune et en très brun. Il vit au Danemark et au début du film, on en sait très peu sur sa vie.
Oui, c'est vrai. Pour moi, il était important que le personnage soit un peu mystérieux. Et progressivement, le film vous permet de mieux le comprendre. Au début, ce n'est qu'un type qu'on ne connaît pas vraiment, on ne sait rien sur lui, et dans la dernière scène du film, là, on commence vraiment à comprendre qui il est.
Ah, on ne dira pas la fin ici, c'est la politique, on ne dit pas la fin du film. On comprend très vite qu'Esmaïl va de femme en femme, d'appartement cossu en appartement bourgeois, pour séduire une éventuelle future épouse et obtenir la nationalisation. Pour lui, séduire est vital dans tous les sens du terme.
Oui, je crois que pour lui, c'est un peu une situation où qu'il a créée de lui-même. Il a créé son propre enfer. La seule chose qu'il est, c'est lui-même, parce qu'il n'a pas d'argent. Et donc, la seule chose qu'il est, c'est lui-même. C'est pour cela qu'il passe de femme en femme pour essayer de s'insérer. Il essaye d'être quelqu'un, d'être celui qu'il pense que les femmes veulent, et c'est comme cela qu'il se perd lui-même aussi.
Il n'a pas d'argent, mais ce n'est pas, vous n'avez pas non plus fait un personnage manichéen qui vivrait dans la misère. Vous n'avez pas choisi le profil du réfugié qui erre de parc public en foyer d'accueil. Esmaïl, il a un travail, il vit correctement. On ne sait pas comment il occupe ses journées. On le rencontre ou on le retrouve à la tombée du jour à chaque fois.
Oui, un peu. Pour moi, c'était important qu'il ne soit pas comme on les voit souvent, qu'il ait quelque chose d'autre. Et la seule chose qui le distingue des autres, c'est le passeport. Il a les compétences sociales, il a un emploi, il pourrait vraiment s'intégrer. Il est intelligent, mais la seule chose qui lui manque, c'est la citoyenneté lui permettant de vivre dans le pays.
Et
ça, c'était important pour moi. Je voulais créer un personnage qui soit vraiment une personne qui pourrait vivre dans n'importe quelle société.
L'assistante sociale, en tout cas celle qui s'occupe de son dossier, l'appelle régulièrement pour lui demander des nouvelles de son dossier. Elle demande preuve qu'il est aujourd'hui en concubinage, sinon il sera expulsé. Il y a une certaine urgence pour lui à trouver une solution, mais vous avez fait le choix de la lenteur. Le film est dans la lenteur.
Oui, c'est vrai. Toute cette idée derrière l'immigration, cette histoire du fait qu'il rencontre quelqu'un, c'est quelque chose qui est en toile de fond. Pour moi, il était plus important de voir le parcours philosophique qu'il effectue. C'est pour cela que c'est un film de personnage plutôt qu'un film traditionnel sur quelqu'un qui essaye de survivre à l'immigration, au système de demande d'asile. Ce qui m'intéressait plus, c'était l'histoire d'Esmaïl en tant que personnage principal, plutôt que simplement voir le système dans lequel il était.
Bon, vous dites que la rencontre dans l'histoire est secondaire, mais nous, elle nous plaît bien quand même, cette rencontre.
Hello, Leo.
Esmaïl.
Hi, Esmaïl.
Are you still?
No. Men det er Esmaïl. Så.
Hej.
Er det ikke dig, der altid er her?
Måske. Jeg kan lide vin.
Er du fra Iran?
Hvor er det bare
Jeg sagde det.
Okay.
Men man er en tjej. Tjern bare en tjej.
Man الان تقریبا 2 ساله. یکم کوب وینتیر سی
مسکه ایت کلاس
تنه اینجا دنبال زن
مرد واسه همینه میگن اینجا
منصور همون میدونی
So what do you want?
Voilà, Ismaïl est dans ce bar cossu qu'il fréquente tous les soirs en espérant y séduire une riche danoise. Il rencontre ces deux jeunes femmes, l'une est danoise et l'autre arrive et lui dit on ne drague pas ma copine, en fait elle est iranienne, elle a compris le petit jeu d'Ismaïl. On la lui fait pas, le coup du séducteur. Et c'est grâce à Sarah, cette iranienne, cette irano-danoise, qu'Ismaïl va côtoyer la société iranienne du Danemark. Mais seul leur pays d'origine les rapproche, tous les éloigne par ailleurs, et notamment la condition sociale.
Yeah, you know, like for me,
oui, pour moi,
I think Sarah and
je crois que Sarah et sa famille et toute cette génération d'Iraniens
like ont
une vue un peu romantique de l'Iran.
So I think that, yeah, like when Ismaïl,
et donc, quand Ismaïl pénètre dans le monde de Sarah, pour lui, c'est presque surréaliste. Il se rend compte que lui, il vient du véritable Iran et eux, ils vivent dans une image idéalisée de l'Iran. Et quand on a écrit le scénario, on s'est dit que ce qui était important, c'était qu'ils partagent une certaine solitude, vraiment. Ils sont tous les deux solitaires là où ils vivent, et c'est cela qui les rapproche. Et elle peut voir cela immédiatement chez lui.
Et alors, à elle et à sa mère, il décide de ne pas mentir quand la maman de Sarah lui pose des questions sur lui, sur sa vie. Il explique qu'il est déménageur et qu'il voudrait s'installer au Danemark. D'ailleurs, il porte, le lendemain matin, après sa nuit chez elle, il porte son pull gris de déménageur. L'importance du costume dans votre film, elle est intéressante. Il porte un costume quand il le doit, et puis il tombe le costume quand tout d'un coup, ses origines le rappellent.
Yeah, you know, the suit.
Oui, c'est vrai que le costume qu'il porte est utilisé presque comme un costume de super-héros. Il a en gros un seul costume dans tout le film. Et c'était important pour moi parce que vous parliez d'un film sur un immigré ou bien un demandeur d'asile. C'était intéressant parce que si vous pouvez mettre un costume, tout disparaît. On peut devenir n'importe qui. C'est donc très important. On a beaucoup travaillé sur ce point.
Au milieu du film apparaît un personnage, un homme, un Danois, qui apporte un côté thriller psychologique à votre film. Mais ne dévoilons rien, les auditeurs iront voir The Charmer. Les acteurs que vous avez choisis ont déjà leur popularité au Danemark. Parlez-nous de cet acteur, Ardalan Esmaili, l'acteur principal, iranien lui aussi.
Yes, Ardan
oui,
is Iranian.
Ardan est iranien aussi. C'est assez drôle parce que on a fait beaucoup de casting pour le film, vraiment énormément de casting. Et je connais Ardalan depuis qu'il a 6 ans. On a grandi ensemble presque. Et il disait que quand il passait les castings, il disait tout le temps, bon, est-ce que tu veux bien me donner le rôle, etc., etc. Mais à ce moment-là, le scénario était différent, donc ça ne pouvait pas être lui. Personnage. Mais ensuite, on a modifié quelque chose et là, c'est là qu'on lui a donné le rôle. Et il a été parfait. Il y a quelque chose chez lui, un mélange de noirceur, mais aussi beaucoup de sensibilité qui fonctionne très bien dans le rôle. Et ça va être vraiment la prochaine grande star.
Qu'est-ce que vous avez changé dans le film qui fait que tout d'un coup, cet acteur-là devait être Ismaïl?
Au tout début, c'était vraiment une toute première version. Le personnage parlait mieux le danois. Il avait vécu plus longtemps au Danemark. Mais ensuite, quand on a écrit le script, je me suis dit que c'était plus intéressant si on avait vécu au Danemark 2-3 ans. Et là, toutes les possibilités s'ouvrent parce qu'on peut prendre un acteur. Ardalan vient de Suède. Il a grandi en Suède. Donc, il a fallu qu'il apprenne le danois pour le rôle. Et ça a été vraiment cette question linguistique qui a tout décidé. Une fois qu'on a changé cette question, on pouvait prendre n'importe qui pour le rôle.
Mais il parle quand même bien le danois. Et même si votre film n'est pas politique, il a en toile de fond les politiques d'accueil des réfugiés, des migrants en Europe, et la politique migratoire au Danemark, quelle est-elle? Si votre personnage sait si bien, quand même, au bout de quelques mois, parler le danois, pourquoi? On a l'habitude, nous, Français, d'imaginer les pays du Nord, les social-démocraties du Nord. Le Danemark n'en fait pas partie, et le Danemark a quand même une politique d'accueil assez dure des migrants.
Mais c'était important quand même qu'il soit un homme intelligent. J'ai travaillé avec des réfugiés moi-même avant de faire des films. Et ce cliché du fait qu'on rencontre quelqu'un qui n'apprend pas la langue, tout ça, la plupart des gens apprennent à parler la langue. La plupart des gens le font rapidement. C'était donc important qu'il apparaisse comme intelligent, qu'il fasse de son mieux.
Also because he wanted to fit in.
Parce qu'il veut s'intégrer dans la société. Donc oui, voilà.
Bon, sur quand même les politiques d'accueil du Danemark, depuis 2015, les règles se sont durcies. Si le réfugié ou l'exilé vient d'un pays en guerre, le Danemark lui propose un asile temporaire. Et s'il vient d'un pays en paix, il doit rentrer chez lui. Est-ce que vous êtes un militant? Est-ce que ces questions migratoires vous travaillent? Est-ce que vous avez voulu quand même en toucher un mot dans ce film qui, encore une fois, n'est pas un film militant?
Je crois que, vu que moi-même j'étais réfugié quand je suis arrivé en Suède, bien sûr, ça fait partie de moi, bien sûr, ça m'intéresse. C'est quelque chose qui, même ça n'est pas, si ça n'est pas le sujet principal de l'histoire, c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup. Donc je ne vais pas dire que je suis militant, mais c'est en tout cas quelque chose qui a son importance pour moi, il faut que j'en parle.
Oui, vous, Milad Halimi, votre histoire ne ressemble en rien à celle d'Esmaïl. Vous êtes arrivé, vous êtes né en Iran en 1982. Vous avez quitté l'Iran très jeune pour la Suède avant de vous installer au Danemark. Mais vous savez ce que c'est que d'être partagé entre deux cultures?
Oui, je crois qu'il y a toute une génération de personnes qui sont allés en Scandinavie et qui ont cette impression d'être partagés entre deux cultures. Et je crois que beaucoup de personnes, même des gens qui sont des Danois blancs, qui sont passés d'une petite ville à la grande ville, se sentent aussi partagés d'une certaine façon.
Où est-ce qu'il vit, Esmaïl? Et avez-vous, avec votre famille, vécu dans de tels immeubles où apparemment il n'y a que des étrangers qui semblent aussi en attente de quelque chose?
Oui, au début, oui. Esmaïl, dans le film, il vit dans un genre de refuge pour demandeurs d'asile. Et pour moi, c'était différent parce que je suis arrivé en Suède quand j'avais 6 ans. Et à cette époque-là, on avait un appartement immédiatement.
Et
Esmaïl, lui, a une situation différente.
Dans le film, il y a des scènes de violence liées aux histoires d'amour ou de sexe du personnage, mais l'une des scènes les plus dures du film se fait paradoxalement sans heurts ni éclats de voix. C'est cette scène où Esmaïl voit son voisin de palier, un vieux monsieur, se faire expulser. Et les agents de l'État qui viennent le chercher sont très doux.
Oui, pour moi c'est important de montrer que tout le monde dans le film est plusieurs couches et plusieurs niveaux. Personne n'est complètement bon ou complètement mauvais, comme tous les êtres humains. Il y a une scène dans le film où il parle à quelqu'un qui essaye de l'aider. Je souhaitais que cette femme ait de la sympathie pour lui, parce que sinon c'est très manichéen, très noir et blanc. Et je souhaitais que le film vous permette de prendre votre propre décision en tant que spectateur.
Il y a eu, encore une fois, des décisions très dures prises en la matière au Danemark ces dernières années, notamment la confiscation des liquidités, des bijoux, des effets personnels des migrants pour financer le coût de leur séjour pendant l'examen de leur demande d'asile. Alors, finalement, la question des bijoux a été retirée. Ça avait fait vraiment débat au Danemark à l'époque.
Oui, c'est vrai, il y a eu un grand débat sur cette question des bijoux.
Mais
tout ça s'est passé, je crois, après le moment où on a produit le film. Et je ne souhaitais pas vraiment trop entrer dans ces détails-là, parce que ça ouvre toute une autre histoire.
Mais
il y a eu beaucoup de débats, de discussions sur le climat qui était instauré au Danemark. Parce que certains partis politiques sont convaincus qu'il faut être plus agressif contre les réfugiés, que s'ils ont de l'argent, ils doivent le donner à l'État. Et c'est vraiment un débat très sévère.
On pourrait avoir un peu d'antipathie pour ce personnage Ismaïl, qui finalement est assez manipulateur, parfois lâche, qui séduit des femmes simplement pour son intérêt à lui, mais en fait non, en fait on le trouve sympathique.
Je crois que c'est parce qu'Ismaïl fait de son mieux. Et nous tous, êtres humains, on a beaucoup de sympathie et puis on peut avoir pas mal d'antipathie en même temps. Pour moi, il était bien de trouver un juste équilibre, que ses décisions morales puissent être motivées par de mauvaises raisons, mais ensuite, il n'y a pas de décision pour lui à prendre. C'est la seule chose qu'il puisse faire.
Qu'il fasse l'amour avec des femmes étrangères, beaucoup de scènes d'amour dans votre film. C'est à la fois exotique, mais on le sent si seul dans ces scènes-là.
Oui, parce que je ne crois pas qu'il y trouve du plaisir. C'est ça, l'histoire. Ces scènes avec les femmes, toutes les personnes qu'il rencontre, on a l'impression qu'il ne fait cela que pour pouvoir rester dans le pays. Quand on a tourné toutes ces scènes de sexe, c'était le moins romantique possible, en fait.
Bon, le masque tombe petit à petit, on ressent une vraie détresse aussi d'Ismaïl, on comprend que toute sa famille est en Iran, qu'il est arrivé donc assez récemment, sans savoir comment il est venu et sans, encore une fois, dévoiler la fin du film. Est-ce que lui sait encore qui il est ?
Je crois qu'à la fin du film, en tout cas, il a l'impression qu'il va survivre. Je ne souhaite pas divulguer la fin, mais si ça s'était terminé d'une autre façon, j'aurais eu peur pour sa survie. Je crois qu'à la fin du film, il accepte qui il est.
Milad Alami, vous travaillez déjà sur votre prochain film. L'histoire se passe en Suède, mais encore une fois, l'Iran n'est jamais loin.
Non, c'est vrai. Malheureusement, non, ça n'est pas en Suède, c'est plus proche. Je travaille sur deux films et dans les deux, il y a un lien avec l'Iran, une certaine thématique, oui.
Et laquelle, vous voulez en dire un peu plus d'ores et déjà ou c'est trop prématuré ?
It's too premature.
C'est trop prématuré. C'est un petit peu secret aussi.
On garde le secret.
Qu'on entend,
Mila Dalami, c'est votre actrice principale, c'est celle que vous avez choisie pour jouer le rôle de Sarah, et qui est une chanteuse reconnue au Danemark.
Elle est compositrice. Elle produit beaucoup de types de musique différents. Et j'ai vu une photo d'elle dans un magazine. Et j'ai eu l'impression qu'elle avait une apparence intéressante. C'est son premier film, elle n'avait jamais fait l'actrice auparavant. Et c'est par la musique que je l'ai découverte. Et elle est très bonne.
Ouais, et très belle. So Reza Nejad, chanteuse. Donc merci beaucoup, en tout cas Milad Alami, d'être venue ce matin dans les studios de France Culture. Votre film The Charmer sort en salle aujourd'hui et nous sommes partenaires. Merci à vous également, Anthony Roger, d'avoir assuré la traduction.
Thank you.
Bonne journée.
Merci.